Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le réseau FM+, si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous hebdomadaire, le 91 MHz sur l'agglomération Montpellier-Rennes ou bien le 103.1 Radio Alliance Plus, agglomération nimoise et au-delà de ces territoires, www.fmplus.org sur le net ou l'application iPhone. Nous allons continuer ce rendez-vous hebdomadaire. Maintenant, ça fait des années qu'on se retrouve semaine après semaine. Mais cette fois-ci, c'est autour donc des méandres de l'amour, Eros et Agapé. C'est le livre qu'a écrit Michel Théron et qui vous permet, si vous êtes amoureux, atteint par un chagrin d'amour ou tout simplement pour pouvoir déclarer sa flamme à l'être qui fait battre votre cœur ou bien vous inspirer aussi des grands auteurs de la littérature, des grands aspects de ce qu'est l'amour, la profondeur ou bien l'irritation que ça peut susciter, eh bien je vous conseille ce livre. C'est un véritable non pas GPS, parce qu'un GPS peut se tromper et nous emmener dans des impasses, mais c'est un véritable guide de cette notion de l'amour, de l'éros et de l'agapé, à la fois cette attirance et ce rejet, et c'est ce qu'on a essayé de débattre au fur et à mesure, de voir les différents aspects. Et je gardais en mémoire, lorsque l'autre jour je regardais Un air de famille, à un moment donc le mari dit à l'épouse, suis-moi je te fuis-moi je te suis. Donc c'est ces aspects parfois qui font que les êtres sont complexes, et leurs sentiments encore plus. Bonjour Michel.
Bonjour Edan, bonjour à tous.
Voilà, donc on reprend et on redémarre notre émission, ce rendez-vous, avec la continuation, enfin continuer à aborder le chapitre amour et connaissance que nous avions ouvert la semaine dernière et que nous allons continuer avec vous. Amour et connaissance. Alors, au terme biblique, quand on dit connaître quelqu'un, connaître une femme, c'est avoir fait l'amour avec elle. Alors, est-ce que c'est ainsi que vous faites ce jeu de miroir, amour et connaissance?
Non, je ne prends pas connaître au sens biblique. Hein. L'homme connut Ève, sa femme, elle conçut enfant à Caïn, par exemple, dans la Genèse, connaître le sens d'avoir des relations sexuelles avec. Mais je pensais à la citation que vous avez faite en commençant, Redouane. Je pense à ce que dit Musset, « Les femmes sont comme notre ombre, quand on court après, elle nous fuit, et quand on la fuit, notre ombre, elle nous court après. » Il en est de même des femmes, si vous voulez. Donc, chacun fuit qui le suit, et suit qui le fuit, en quelque sorte. Hein. C'est une loi d'attraction-répulsion dont nous avons déjà parlé lors d'une émission précédente. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la connaissance. Alors, certains disent que la connaissance nous fait souffrir, hein, qu'elle peut nous mener à la paralysie, hein, et trouvent au contraire que l'amour est un élan affectif qui suscite une empathie immédiate pour celui qui en est l'objet, hein. La connaissance au contraire nous paralysant et nous figeant sur place, nous menant à une espèce de stagnation. Alors c'est vrai qu'en un sens la connaissance fait souffrir et peut empêcher le déploiement vital inconscient. On lit par exemple dans l'Ecclésiaste au chapitre 1 verset 18 « Celui qui augmente sa connaissance augmente aussi sa douleur hein. ». Alors dans la Septante, c'est-à-dire dans la traduction à Alexandrie de la Bible juive, pour connaissance on a bien gnosis, d'où la gnose hein. Et Jérôme traduit qui auget scientiam, auget et dolorem. Celui qui augmente son savoir, sa connaissance, augmente aussi sa douleur. Alors, certains esprits vitalistes, donc, sont hostiles à la connaissance. Par exemple, Gide disait « qui pense à soi s'empêche hein, », à propos de la connaissance de soi. Ou encore, du même Gide, voyez cette maxime « connais-toi toi-même, maxime aussi pernicieuse que l'aide ». La chenille qui voudrait bien se connaître ne deviendrait pas pour autant un papillon. Vous voyez, connais-toi toi-même était la devise que Socrate avait lue au fronton du temple de Delphes. Vous voyez, gnotis et automne. Eh bien, Gide prend l'option opposée Et d'ailleurs, contre le cogito cartésien, je pense donc je suis, Valéry lui-même disait « tantôt je pense, tantôt je suis hein, ». C'est-à-dire que la réflexion, la pensée, la connaissance est un principe, si vous voulez, de meurtrier hein, pour l'élan vital. Donc, est-ce qu'il vaudrait mieux le vitalisme contre le gnosticisme, c'est-à-dire l'éloge de la connaissance? C'est un fait que la connaissance complexifie toute chose. Et on pourrait dire, voyez Redouane, qu'il en est du bonheur comme des montres. Ce sont celles qui sont le moins compliquées, qui se détraquent le moins, vous voyez, comme nos machines modernes. Hein. Plus elles sont complexes, plus elles se détraquent. Vous voyez, tous ceux qui manipulent un ordinateur, hein, vous voyez les crises qu'ils font quand la machine ne répond pas à leurs attentes, Redouane.
Ou même toute la technologie qu'il y a dans nos voitures aujourd'hui, même pour faire une vidange, ça devient pratique. Impossible.
Absolument. Donc là, on voit bien que la complexité, l'élaboration technique ou autre, finalement, comporte bien des écueils. Eh bien, malgré tout ce que je viens de dire, je dirais que s'agissant de l'amour, hein, qui pourtant semble plus simple, plus spontané, plus naturel que la connaissance, eh bien, il faut défendre en amour la connaissance. Il me semble que c'est un leurre complet que de la dévaloriser. Comme peut-être le fait Paul, alors là je ne veux pas être provocateur, mais quand Paul nous dit dans l'hymne à propos de l'agapé, dans 1 Corinthiens 13, hein, que la connaissance passera, la gnosis passera, et que seul reste l'amour, agapé, bon, je trouve qu'il a un peu tort, hein, de dévaloriser ainsi cette connaissance, parce que qu'en est-il d'un amour qui ignore ce qu'il peut faire, qui ne connaît pas ce qu'il peut faire, et cela même en croyant bien faire, d'un amour qui n'envisage pas, quand il se manifeste et qu'il se déploie, l'ensemble de la situation présente et les conséquences potentielles de ses actions, qui sont souvent au départ imprévisibles. Il ne faut pas oublier la phrase de Solzhenitsyn, « Tous nos crimes sont des crimes d'amour ». Alors, pour bien comprendre cette phrase, un peu paradoxale, bien sûr, je vous l'accorde, il faut réfléchir. Et ici encore, on va vérifier que le vrai amour n'est pas spontané ou naturel, mais qu'il doit s'apprendre. Alors, bien sûr, il y a au départ un élan qui est souvent incontrôlé. Hein, mais cet élan d'incontrôlé au départ doit être ensuite contrôlé et éclairé par la connaissance. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, je pense qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, par exemple, une loi générale de l'action, qui a été bien mise en lumière par tous ceux qui ont étudié le tragique de l'action. Le philosophe allemand Karl Jaspers disait « Toute action engendre pour son auteur des conséquences dont il ne s'était pas douté ». Vous voyez, se produit ici un détournement de finalité et on assiste à une opacité, un hiatus hein, qu'il y a très souvent entre l'intention d'une action et son résultat. Voyez par exemple ce que dit Jules Monnerot dans un livre « Les lois du tragique » qui est paru je crois dans les années 70 aux presses universitaires de France. Il appelle ce phénomène « hétérotélie hein. ». Alors c'est un mot savant, difficile, qui n'est pas dans le dictionnaire, expliquons-le. Ce mot « hétérotélie » vient du grec « hétéros » qui veut dire « autre » et « télos » qui veut dire « but, finalité hein. ». Donc l'hétérotélie, c'est le décalage qu'il y a dans le déroulement d'une action, dans le processus de l'action, entre l'intention initiale et le résultat final. La finalité est détournée, vous voyez. Et on pourrait résumer cela par le vers de Racine dans Attali. Comment en un Plonville l'or pur s'est-il changé? L'or pur, c'est l'or pur des intentions. Et le Plonville, c'est évidemment, pour filer la métaphore, le résultat de l'action. Donc on peut dire que très souvent, le mal sort du bien. Alors c'est évident du tragique historique, par exemple, hein, où l'on voit le danger d'un méliorisme sans contrôle. Le méliorisme, c'est le fait de vouloir améliorer les choses. Hein. Alors, regardez en France comment la libération du peuple en 1789 hein, a pu donner, 4 ans plus tard seulement, la terreur de 1793. Donc, au début, la liberté pour tous, et après, à la fin, Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, vous voyez. En 93, selon les dires d'un témoin, les têtes tombaient comme les ardoises des toits par un jour de grand vent, vous voyez. Et cette situation est évoquée par Anatole France, dans son livre « Les dieux ont soif », les dieux de l'histoire, les dieux de la Révolution, ont soif du sang des hommes, en quelque sorte. Hein. Alors, comment aussi le socialisme, par exemple, qui est une idée généreuse, a-t-il pu être détourné, dévié, dévoyé en Allemagne par le parti national-socialiste, vous voyez, hein, qui se réclamait quand même du socialisme? Ou bien comment la révolution russe de 1917 a pu donner le totalitarisme stalinien, qui n'est inférieur en rien, en horreur, hein, au totalitarisme nazi, à la dictature nazie. Vous savez, Redouane, Charles Péguy a fait un texte essentiel dans notre jeunesse. Hein. Il dit « Tout commence en mystique et tout finit en politique ». Vous voyez, donc tout se dégrade en politique. Espérons que ce que nous voyons sous nos yeux, et qui est très sympathique, le mouvement, par exemple, de la Nuit Debout, hein, où ces jeunes s'insurgent contre l'inacceptable, ne va pas se dégrader, hein, ensuite en intrigue politique. Vous êtes de mon avis, Redouane, hein, je pense que, bon, enfin, on se dresse, hein, mais qu'en sera-t-il de l'avenir? Il faut espérer qu'il n'y aura pas ce décalage.
Voilà, il ne suffit pas de s'indigner, comme disait... j'ai oublié le nom. Enfin, l'indignation mène aussi à l'action, sinon c'est
absolument une action éclairée. Donc, au départ, c'est important l'indignation, mais que devient-elle ensuite? Alors, tout se dégrade, tout finit en politique, de ce qui a commencé en mystique, selon Péguy, et la politique va se dégrader en intrigue. Dans ce que Créon appelle dans sa pièce, dans la bouche, dans Antigone de Jean Anouilh, hein, donc la cuisine, vous voyez, la cuisine. Créon veut enseigner comment les choses se passent pratiquement. Et je vais t'apprendre, dit-il à Antigone, la cuisine, vous voyez. Alors Antigone s'insurge en disant « cuisinier hein, », c'est-à-dire une insulte dans sa bouche. Donc, d'abord la mystique, puis la politique, et puis l'intrigue, vous voyez, dégradation successive. Alors, on aboutit à ce que Sartre appelle dans Les Mains Sales, précisément, le gouvernement des mains sales, hein, dans cette pièce-là. Hein. On ne peut être efficace que si on doit se salir les mains. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est un problème. Hein. Kant disait qu'il ne fallait jamais mentir, qu'il fallait toujours être, pur d'intention. Hein. Toute la morale de Kant est basée là-dessus, et cette morale est héritée, par exemple, du protestantisme luthérien. Hein. Mais Charles Péguy disait, Kant a les mains pures, il a les mains pures, mais il n'a pas de mains, c'est-à-dire il n'est pas efficace dans l'action, vous voyez. C'est vrai que dans l'histoire est pleine, comment dire, d'ironie et de sang, hein, et les rêves les plus beaux y finissent très souvent en règlement de compte de gangsters, comme il se voit par exemple dans le roman de Kafka prémonitoire qui s'appelle Le Procès. Hein. Bon, au départ un beau rêve, un bel idéal, et à la fin la dégradation totale, le reniement de ce à quoi l'on a cru, le sordide si vous voulez. Alors, revenons à notre sujet maintenant, de l'amour. Hein. Ce qui est vrai de l'action des hommes dans l'histoire, où l'on assiste très souvent à une dégradation massive des valeurs et des idéaux, eh bien c'est aussi vrai au plan strictement individuel. Par exemple, nous pouvons vouloir le bien de quelqu'un que nous prétendons aimer, nous pouvons faire tout ce que nous faisons en ce sens, et nous pouvons aboutir à un résultat non seulement différent, mais même exactement inverse, un résultat opposé. Alors on le sait, l'enfer est pavé des meilleures intentions. Et un proverbe latin dit très bien, la pire corruption est celle du meilleur, hein, corruptio optimi pessima, vous voyez. Donc il faut réfléchir à cela, et quand on aime quelqu'un, il faut se demander si on l'aime bien, comme on doit aimer, hein, et pas seulement se contenter de déclarations d'amour. Il faut une réflexion sur soi-même. Alors vous allez voir, je vais prendre un exemple pour voir le glissement qu'il peut y avoir entre l'intention de départ qui est parfaite et le résultat. Il s'agit de deux vers prononcés par Alceste dans Le Misanthrope de Molière, dans l'acte 2, scène 4. Voici ce que dit Alceste. « Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À ne rien pardonner, le pur amour éclate. » Alors, le premier vers est absolument juste. Hein. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. Le vrai amour est exigence. Et notez d'ailleurs, alors vous voyez, il y a un contresens que font beaucoup de gens. Hein. Sur le proverbe latin, « Qui bene amat, bene castigat ». On le traduit « qui aime bien, châtie bien ». Mais on comprend « bien » au sens de « beaucoup ». Or, c'est pas ça du tout, hein. C'est qui aime comme il faut aimer, hein, châtie comme il faut châtiller. Si c'était beaucoup, en latin, vous n'auriez pas bene, vous auriez multum, qui aime beaucoup, hein, châtie beaucoup. Mais bene, ça veut dire de la bonne façon d'aimer. Donc, quand on justifie, si vous voulez, un châtiment sévère par cette formule, qui aime bien, châtie bien, on fait un contresens, vous voyez. Bon, parce que le mot bien en français a deux sens, effectivement. Hein. On oublie qu'il s'agit de la bonne façon. Donc, je suis absolument d'accord avec « plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte ». Mais le deuxième vers, hein, « à ne rien pardonner, le pur amour éclate », alors là, je ne suis pas d'accord avec ça, hein, puisqu'il est excessif, il est faux ce vers, car le pardon en amour est indispensable. Nous avons déjà évoqué, à maintes reprises d'ailleurs, dans nos émissions précédentes, le pardon accordé à l'enfant prodigue, qui l'obtient enfin de son père après sa repentance, vous voyez. Donc le pardon est indispensable, donc à ne rien pardonner, le pur amour éclate, et c'est une erreur. Et vous voyez que Molière glisse, ce qu'il met dans la bouche d'Alceste, il glisse de façon imperceptible mais énorme, d'une idée juste à son contraire. Alors, si nous aimons quelqu'un, tâchons de ne pas faire la même erreur, hein, de ne pas aller d'une idée juste, une conduite juste, à son contraire. Alors, j'ai choisi comme première pause musicale La Quête de Jacques Brel, que vous aimez beaucoup, je le sais, Redouane. Nous en avions déjà parlé un peu, mais nous n'avions pas eu le temps
d'écouter
la semaine dernière. Alors, vous allez voir, je dirai après pourquoi il y a un passage de cette chanson qui me semble discutable.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal. Sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile, telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps, ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se tanner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre inaccessible. Et toi,